Le château aventureux, chapitre 37. Défaite des compagnons de la table ronde. Dans le champ, cependant, les rois, les ducs, les comtes, les chevaliers, se pressaient en si grand nombre qu'il semblait que tous les prud'hommes de l'univers y fussent assemblés. Les héros avaient déjà crié « À vos hommes !» Lorsqu'arrivèrent ceux de la table ronde, qui portaient tous une rouelle de cordouan sur l'épaule en guise d'enseigne. D'abord qu'ils chargèrent, ils abattirent bien 100 chevaliers, et les gens de l'empereur d'Allemagne durent reculer de 2 traits d'arc. Beaucoup d'entre eux apprirent ce jour-là comment prison fait bourse plate, car ils durent se racheter comme est la coutume en tournoi. Mais Sir Gauvin, pour sa part, faisait de telles prouesses qu'en reconnaissant ses armes, on criait « Le voici ! Fuyez ! Fuyez !» Et les dames et les demoiselles parlaient déjà de lui donner le prix, qui était un cerf à bois et sabots dorés. Lancelot se tenait à l'écart avec le roi Baudemagu et ceux de Gore. Quand il vit cela, il dit « Sire, maintenant, allons aider !» Et il s'élança, bruyant comme la foudre, suivi du roi et de ses gens. Du premier coup, il perce l'écu et le haubert d'Agravin, qu'il jette entre les pieds des chevaux. Du tronçon de sa lance brisée, il renverse Calogrenant, un des compagnons de la table ronde. Puis il dégaine, et son épée de voler plus vite qu'un faucon sur sa proie, démaillant, coupant, tranchant chevaliers et chevaux, tête, bras, hampe, écu. Quel fut le premier, quel fut le dernier qu'il navra? Tel un loup à jeun dans le parc aux moutons, qui tue à droite, à gauche, devant, derrière, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il abattit comme brebis Monseigneur Gauvin, et Sagremort, et le roi Idier, et Bliobéry, et Lucan, et Agloval, et Mordré, et Queux, et Ganor d'Écosse, et Giflé, et le Léhardi, et les autres. Partout, il présentait son écu, offrait son aume, jetait son épée, et ceux de Gore ne voyaient que lui en tout lieu, comme un étendard. Sa seule vue relevait les gisants. À la fin, les compagnons de la table ronde s'enfuirent devant celui qui les détruisait ainsi que la flamme un taillis. Et, montés sur le meilleur destrier du roi Baudemagu, il les pourchassa, suivi des siens, bien au-delà de leur camp, jusque dans les rues de Camelot. Le roi, cependant, doutait que celui qui faisait de telles merveilles et finissait le tournoi en si peu de temps ne fût Lancelot lui-même. « Sire chevalier, cria-t-il, quand le vainqueur revint de la poursuite, vous êtes l'homme au monde que je souhaite le plus de connaître. Par amour, je vous prie de m'apprendre votre nom. » Sans dire mot, Lancelot délassa son aume et le roi, en le voyant, poussa un cri de joie. Il descendit en toute hâte et courut l'accoler, tout armé comme il était. À ce moment, on apportait Monseigneur Gauvin sur une litière. Le roi s'empressa à demander son meilleur mire, qui pansa la blessure de l'épaule et y mit tel emplâtre qu'il jugea bon. Et quand Messire Gauvin fut couché au palais et qu'il aperçut Lancelot à son chevet, il lui dit « Sire, soyez le bienvenu. Vous êtes le plus preux chevalier du monde, et vous l'avez fait paraître aujourd'hui, d'une manière telle qu'il m'en faudra souvenir à tous les jours de ma vie. Mais vous avez bien abattu l'orgueil de ceux de la table ronde. » Or, quand ils connurent cette parole de Monseigneur Gauvin, les compagnons s'en irritèrent, et plusieurs en conçurent contre Lancelot une haine mortelle. Mais le comte parlera de cela quand il sera temps. Chapitre 38. Lancelot et son péché. Comme on mettait les nappes pour le dîner, Bor arriva, puis Lionel, puis Hector, qui tous trois se chagrinèrent fort d'avoir manqué le tournoi. Le repas achevé, le roi manda les clercs chargés de mettre en écrit les aventures des chevaliers errants. et il invita Lancelot à dire ce qui lui était advenu depuis qu'il était parti en compagnie de la vieille au cercle d'or. Lancelot conta tout. Pourtant, il ne rapporta point comment il avait été trompé par la fille du roi Pelès, non qu'il en eût honte, mais parce qu'il craignait de perdre l'amour de sa dame. Quand il eut fini, messire Gauvain narra à son tour ce qui lui était arrivé au château aventureux avant Lancelot, et comment la vieille lui avait dit, en le laissant, que le fils de la reine aux grandes douleurs avait perdu, par la faiblesse de ses reins, l'honneur de mener à bien la plus belle des aventures et de connaître la vérité du Saint Graal. Et comment, en se retournant, il n'avait plus trouvé trace de château. Tous les chevaliers qui étaient partis en quête de Lancelot firent ainsi le récit de leurs aventures. Après quoi, chacun s'en fut dormir en son hôtel. Le roi Artus était un peu souffrant. Il coucha seul dans une chambre du côté de l'eau. Grâce à quoi, la reine put faire dresser son lit dans une pièce qui donnait sur le jardin. Puis, ayant écarté ses pucelles, afin d'éviter le bruit, dit-elle, et de mieux reposer, elle reçut Lancelot. Mais, lorsque tous deux se firent fait joie comme ceux qui s'aimaient plus que tout au monde, elle se prit à pleurer. « Ah, beau doux ami, vous avez entendu ce qu'a dit mon neveu Gauvain, que le fils de la reine aux grandes douleurs a perdu par son péché l'honneur de découvrir la vérité du Saint Graal. C'est vous, il vaudrait mieux que je ne fusse jamais née. Dame, vous dites mal. Sachez que je ne serais jamais parvenue sans vous à la hôtesse où je suis, car je savais bien que je ne vous gagnerais qu'à force de prouesse. C'est votre amour qui mit toute force en mon cœur. » Mais la reine hocha la tête en soupirant. Puis elle dit encore, « Beau doux ami, bien des gens vous ont cru mort, et quelqu'un m'a fait outrage, qui ne l'eût osé s'il eût pensé que vous fussiez en vie. C'est le roi Clodas de la terre déserte, qui déshérita votre père et força votre mère à se faire nonne voilée pour lui échapper. » Et elle lui conta comment Clodas détenait sa cousine en prison et les insultes qu'il lui avait mandées. « Dame, dit Lancelot, sachez que vous serez vengée, et je ne serai jamais en paix tant qu'il lui restera un pied de terre. » Dès le lendemain, il appela à parlement son frère Hector, Lionel et Bohor, avec 60 compagnons de la table ronde, ceux qu'il aimait le plus. Et quand ils surent qu'il voulait reprendre son héritage, ceux-ci lui offrirent leur corps, leurs biens et leurs hommes, pour soutenir cette guerre. De même, le roi Artus lui promit de l'aider de tout son pouvoir. À son tour, le roi Baudemagu de Gore dit qu'il viendrait avec ceux de son royaume. Tous prirent rendez-vous pour le jour de la Madeleine, à Londres, où de grandes nefs bien munies devaient les attendre, afin de passer la mer, lorsque Dieu leur donnerait un temps favorable. Et bientôt, on ne parla dans toute la ville que de la guerre entreprise par Monseigneur Lancelot du Lac. Chapitre 39. La guerre de Gaulle. Mort du comte d'Allemagne. C'est ainsi, dit le comte, que le jour de la Madeleine, l'armée du roi Artus monta sur les nefs, et comme elle eut bon vent, elle parvint en Flandre assez aisément. Pendant qu'on débarquait leurs harnais et leurs chevaux, les chevaliers campèrent sur la plage, puis ils se mirent en marche derrière ceux du royaume de Gore qui faisaient l'avant-garde, en bel arroi, lance sur feutre et tout couvert de fer. Le comte de Flandre voulut s'opposer à eux, mais il fut défait et tué par le neveu du roi Baudemagu, Patride, à qui l'on donna la couronne de laurier qui était le signe de la victoire en ce temps-là, et toute la comté de Flandre. Ensuite, l'armée entra en Gaule, et, comme le roi de cette terre venait de mourir, les peuples dirent qu'il ne ferait point d'opposition, de sorte que le roi Artus manda à ses chevaliers de se désarmer, hormis l'avant-garde, et passa sans commettre aucun dégât ni dommage. Il apprit cependant que les barons du pays ne pouvaient s'accorder pour élire leur seigneur, et qu'un comte d'Allemagne, nommé Matabron, les menaçait de s'emparer par force de la terre de Gaule s'il ne la lui octroyait par amour, car il avait grande abondance de biens et d'amis. Cela fit songer au roi qu'il avait de meilleurs droits que tout autre sur ce royaume, pour ce que Pharamond avait jadis dû rendre hommage à son père, Uther Pendragon. Il résolut de les faire valoir. Néanmoins, il envoya son armée contre le roi Claudas, jugeant qu'il lui suffisait d'un petit nombre de gens, du moment qu'il gardait Lancelot avec lui. Les barons de Gaule, qui étaient alors assemblés dans la ville de Paris, eussent volontiers reconnu Artus pour leur seigneur. Mais Matabron s'écria « Ce roi est fou, qui veut avoir la terre à moi donnée. S'il en fait tant que je pende mon écu à mon cou, il n'échappera pas sans avoir la tête coupée. » Et lorsqu'il sut que le roi approchait de Paris, il lui envoya un messager pour lui dire que ce serait mal fait que leurs gens s'entretuassent et qu'il le défiait seul à seul, corps à corps. Lancelot pria son seigneur de lui céder la bataille, mais celui-ci n'en voulut rien faire. Le lendemain, donc, quand le soleil fut levé, le roi Artus entendit la messe, puis il s'arma richement et se fit passer dans l'île Roland, dessous Paris, qu'on avait choisi pour le combat. À le voir si petit au prix de lui, Matabron, qui était très fort et très haut, pensa qu'il l'outrerait aisément. Pourtant, le combat dura de prime jusqu'à midi, sans que l'un d'eux pût prendre à l'autre un plein pied de terre. Mais à ce moment, Matabron commença de se lasser, parce qu'il avait trop attaqué au début, pensant vaincre en peu de temps. Alors, le roi se mit à le frapper sur le haume de sa bonne épée marmiadoise comme un bûcheron sur un chêne, et si rudement qu'à la fin l'Allemand tomba tout étourdi. Aussitôt le roi Artus lui coupa la tête. Chapitre 40. La guerre de Gaule, surprise de Pinegon. Pendant ce temps, l'armée de l'ogre arrivait sur la terre de Gannes, devant Pinegon, qui était un château assez fort et bien muni pour soutenir un siège de 10 ans. Bors l'assaillit en vain. Mais le roi Baudomagus avisa de grimper avec ses gens par un côté qui passait pour inexpugnable et qu'on avait laissé sans garnison. Et lorsqu'ils entendirent crier derrière eux « Trahison !», ceux du château se fussent rendus volontiers. Néanmoins, les chevaliers de Gore en firent un tel massacre qu'il n'en échappa guère de vivant. Le roi Claudas eut grand deuil de cette nouvelle. Sur le conseil de Xerxès, son sénéchal, il donna 50 chevaliers à son fils Claudin, et la nuit venue, celui-ci se mit en route par des chemins qu'il connaissait, menant sa compagnie renforcée d'une troupe de jeunes gens, nouveaux adoubés, légers bacheliers, qui avaient grand désir de combattre, et qui partirent sans le congé de Claudas. Or, le roi Baudemagus avait fait coucher sa gente dedans le château. Mais tout le reste de l'armée avait dressé ses tentes et ses pavillons dans la plaine. Et si qu'eux avaient été chargés de faire le guet du côté de l'ennemi, l'autre ligne n'était point gardée. Claudin, qui savait cela, divisa ses forces en 2 parts. Avec la première, il laissa court sur qu'eux, lequel tint si bien la mêlée avec les siens que ceux de l'ogre n'eussent guère perdu. Mais, dans le même temps, l'autre corps des gens de Claudin chargeait à revers, coupant les cordes des tentes, criant « Trahi, trahi !» et tuant tout. Grâce à Dieu, messire Gauvin, sage et éprouvé comme il était, s'était couché tout armé et avait fait coucher d'eux-mêmes ses frères et les siens. Mais Bors, Lionel, Aguisan, Le Lay Hardy, Brandely, Bréobéris et beaucoup d'autres jeunes hommes dormaient tout dévêtus, et ainsi un grand nombre furent pris. Toutefois, quand Claudin aperçut que le roi Baudemagus et ses chevaliers commençaient à sortir du château, et que beaucoup de ceux de Bretagne étaient enfin armés, Il se mit en retraite, après avoir placé ses prisonniers en tête, faisant lui-même l'arrière-garde avec ceux de son lignage et revenant sur ses poursuivants comme le sanglier sur les chiens. Messire Gauvin, ses frères, le roi Idier, que le sénéchal, lui firent la chasse tant qu'ils purent. Mais lorsque la lune se fut couchée et le ciel tant obscurci qu'ils ne se reconnaissaient plus les uns les autres, il leur fallut bien s'arrêter. Et comme ils revenaient, ils entendirent les grands cris et les pleurs que faisaient ceux des tentes à cause de leurs parents qui gisaient. Car il y avait bien 40 tués, davantage de blessés, et 15 chevaliers prisonniers, dont Brandely et 30 sergents. Au matin, les barons résolurent de rester à Pinegon un jour et une nuit pour faire droit aux morts et pour penser et soigner leurs blessés le mieux possible. Mais le jour suivant, l'armée se mit en marche, divisée en 10 échelles de 100 hommes, tant chevaliers que sergents. Chapitre 41. La guerre de Gaulle, bataille du Corps. Clodas les attendait devant le château du Corps. Dès qu'ils aperçurent les enseignes de la déserte, le roi Baudemagu et les siens, qui faisaient l'avant-garde, mirent lance sur feutre et laissèrent court, en si bel arroi que c'était plaisir de les voir. Et la première échelle du roi Clodas s'élança à leur rencontre. Alors, les lances peintes au fer tranchant percèrent les écus et les blancs aubert. D'autres se brisèrent en éclats au ras des poings. Les chevaliers se heurtèrent des chevaux et des corps, et beaucoup volèrent par-dessus les croupes de leurs montures. Les haumes retentirent, les destriers sans cavalier galopèrent, effrayés, la tête haute. La terre ruissela de sang, et il s'éleva un bruit tel qu'on n'eût pas entendu Dieu tonner. Et bientôt, la première ligne de Clodas céda, de sorte que la seconde dut venir à la rescousse. Xerxès la conduisait. Comme il vit que le roi Baudemagu faisait grand dommage, tuant tout ce qu'il atteignait, il lui courut su et lui asséna un tel coup sur le haume qu'il le fit choir de son destrier. Non pas blessé, mais tout étourdi. Puis il continua sa course, frappant à dextre et à sénestre, tranchant les lances et les bras, et faisant tant d'armes que nul n'osait l'attendre. Patride galopa vers lui, l'épée haute, mais Xerxès leva son écu, dont le cou sépara un grand morceau, et il riposta si rudement que Patride dut s'incliner sur le cou de son destrier. Alors le roi Baudemagu, qu'on avait remonté, vint aider à Patride. Il haussa son arme et, l'abattant sur Xerxès, fendit le haume, la coiffe de maille et l'os du crâne, en sorte que le sénéchal tomba mort. Et ses gens lâchèrent pied. Les chevaliers de Gore les poursuivirent, mais ils se heurtèrent à la troisième échelle. Aussitôt le corps du roi Brangor accourut pour les soutenir, et la troisième ligne des ennemis fut déconfite à son tour. Ce que voyant, le roi Clodas envoya en grande hâte deux de ses chevaliers à Gannes, et les chargea d'en ramener tout ce qui pouvait porter les armes, hors une petite garnison qui devait rester dans la cité. À midi, cependant, son armée tout entière se trouvait engagée contre les 8 premiers corps de ceux de l'ogre. Messire Gauvin et Hector combattaient de compagnie, et leurs épées frappaient si vite et si fort qu'elles brillaient comme la foudre et faisaient plier les reins. Voyant cela, Claudin prend une lance courte et roide, s'adresse à Monseigneur Gauvin, l'atteint par le travers et culbute ensemble l'homme et le cheval. Aussitôt, ses gens l'accoururent pour s'emparer du chevalier démonté. Hector protège son compagnon, mais son destrier aussi est bientôt tué. Il jette son écu sur sa tête, et dos à dos, Messire Gauvin et lui font belle défense. Hélas, ils sont bien aventurés, tout seuls, au milieu des ennemis. Au loin, Messire Yvain les aperçut. « Franc chevalier ! » cria-t-il à ses hommes. « Or paraîtra qui aime le roi Artus et moi. Pensons de secourir Monseigneur Gauvin et Hector Desmar, qui sont entourés par la gente de Clodas. Ah, je crains fort qu'il ne leur advienne mal avant notre arrivée. » Ce disant, il s'élance le premier, droit comme carreau d'arbalète, écrasant les cadavres et les armes, et s'adresse à Chanard, le cousin de Claudin, qu'il fait voler à terre. Mais Claudin, prenant son épée à deux mains, frappe Monseigneur Yvain d'un tel coup qu'il le jette à bas de son destrier, et saisissant le cheval par la bride, il l'amène à son cousin qui s'empresse de l'enfourcher. Dans le même moment, Hector arrêtait le destrier de Chanard, mettait le pied à l'étrier, malgré ceux qui l'entouraient, et sautait en selle, puis courait su au roi Clodas. Celui-ci ne l'évita pas, car il avait été de grandes prouesses durant sa jeunesse. Même, il lui déchargea un si pesant coup d'épée qu'il abattit un morceau de l'écu. Mais Hector riposta, et le roi fit du jour la nuit. Il chut, pommé sur le sol, où ses armes sonnèrent, et Hector s'empara de son destrier. Il le conduisit à Monseigneur Gauvin, qui était encore à pied. Ainsi dura la mêlée, et vous eussiez vu le champ jonché de chevaux morts, éventrés, renversés sur le dos et agitant les jambes, d'hommes tués ou navrés, la bouche bée, gisant comme brebis égorgées, criant « Pour Dieu, à boire !» La cervelle et le sang tombaient en pluie. Certes, de cette bataille, mainte dame demeura sans mari. Enfin, sur l'heure de nonne, comme l'armée du roi Clodas commençait de plier, parurent au loin les chevaliers de Gannes, qui venaient au pas, afin que leurs destriers ne fussent pas trop là au moment où ils en auraient besoin. « Beau seigneur, voici le secours !» se hâta de crier Clodas. « Or paraîtra qui pressera. Que chacun pense à se venger du mal qu'on lui a fait. » Sitôt qu'ils débuchèrent dans la plaine, les gens de Gannes brochèrent des éperons à qui mieux mieux. Toutefois, ceux de Bretagne les reçurent en prud'homme, et de telle sorte qu'ils les ramenèrent. Donc Claudin, étonné, dit à Esclamor, « Pardieu, ces gens sont aussi assurés que s'ils n'avaient rien fait aujourd'hui !» Néanmoins, les Bretons durent bientôt reculer, qu'ils le voulussent ou non. Ce que voyant, Messire Gauvin songea aux deux derniers corps qu'il n'avait pas encore donnés. « Va derrière ce bois, » fit-il à son écuyer, « et dis à mon frère Gahurier qu'il nous soutienne avec la 9e échelle, car la réserve de Clodas nous est tombée sur le cou, et que Bohor attende avec les siens que je l'envoie quérir. » Gahurier et sa gente fondirent comme une tempête sur la multitude ennemie, et la mêlée devint grande et merveilleuse, au point que nul n'eût pu prévoir à qui Dieu donnerait l'honneur et la victoire de cette journée. Claudin prit des mains de son écuyer une lance courte, épaisse et roide, et s'adressant à Hector, il lui perça la cuisse, puis la selle et le corps de son destrier. « Ah ! Messire Gauvin pleura tendrement quand il vit son compagnon à terre qui ne pouvait se relever. Il le fit transporter à l'arrière et ordonna de le garder aussi chèrement que le roi Artus lui-même. Puis il manda Bohor et les siens à la rescousse. Et d'abord, Bohor courut su à Marien. De sa lance au fer tranchant, il lui cloua l'écu au bras et le bras au corps et le renversa mort. Puis il tira son épée et il abattit Esclamor, et Chanard, et Nabin, et fit en peu de temps un si furieux ravage qu'à le voir, la gente du roi Clodas hésita. « Par mon chef, fit Messire Gauvin, il est fou celui qui a pris la terre d'un tel homme. » La nuit descendait. Les gens de la déserte furent heureux de la voir venir. Ils tournèrent bride, assez vilainement, vers la cité de Gannes, rudement pourchassés par les Bretons, qui tuaient tous ceux qui restaient en arrière. Chapitre 42. La guerre de Gaulle, bataille de Gannes, fuite de Clodas. À Gannes, le roi Clodas fit bien garnir les murs, tourelles et bretèches, de sergents et d'arbalétriers. Puis il s'enquit des hommes qu'il avait perdus et en trouva plus de 400. Alors, par le conseil de ses barons, il résolut d'attendre, abrité dans la ville, le secours de l'empereur de Rome, son seigneur, qui n'était plus qu'à 2 lieues. Au matin, en effet, l'armée romaine sortit tout soudain de la forêt, les enseignes dressées. Heureusement, messire Gauvin avait fait veiller toute la nuit 40 fers vêtus, et non pas à cheval pour ne point fatiguer les destriers, mais la bride en main. Cependant que dans toute l'armée, les écuyers et les valets raccommodaient à la hâte les haubères et les chausses. Grâce à cela, l'avant-garde des ennemis, qui était conduite par un de leurs sénateurs, jeune bachelier et de grande chevalerie, fut rudement reçue. Néanmoins, les chevaliers de Rome étaient nombreux et très preux, et quand fut engagée leur dernière échelle, où se trouvaient tous les consuls et les hauts hommes, avec les étendards qui pesaient bien la charge de 4 chevaux, étant en forme d'une aigle d'or et d'un dragon fièrement fiché sur des barres de fer, messire Gauvin n'avait plus que le seul corps de Bohors en réserve. À ce moment, les gens de Gannes firent une sortie et se jetèrent dans la bataille. Mais ils étaient là. Puis Bohors accourut avec les siens, dévorant comme le feu dans les brandes, si bien que la victoire balança. La bataille dura de la sorte jusqu'à la nuit, périlleuse et confuse, et le lendemain elle reprit, puis le surlendemain, en sorte que la puanteur des morts que leurs amis n'avaient pu enterrer devint affreuse. Alors messire Gauvin et le maître consul de Rome, qui avait nom Pantelion, conclurent une trêve de 15 jours pour ensevelir les cadavres. Tous ceux que l'on put reconnaître furent mis en un cimetière béni et les autres brûlés. Durant la trêve, les gens de Gannes et les Romains visitèrent souvent l'armée du roi Artus, tandis que les chevaliers de l'Ogre allaient à leur guise dans la cité, où ils admirèrent les grandes richesses. Or, la veille de la Saint-Michel, un des hommes de Clodas s'étonna de voir qu'on menait grande joie dans les tentes des Bretons, et, ayant appris d'un valet que c'était à cause de l'arrivée prochaine du roi Artus et de Lancelot, il s'empressa d'en instruire son seigneur. Don Clodas, certes, fut très mal à l'aise. Il appela un écuyer qu'il avait élevé et nourri. « Me puis-je fier à toi ?»« Ah, sire, que dites-vous ? Je vous servirai loyalement à toujours. »« J'ai à parler à un ermite qui habite loin d'ici. Prépare secrètement 3 sommiers pour porter les bagages et 2 forts chevaux. » L'un pour toi, l'autre pour moi. Nous partirons cette nuit. » Ainsi fut fait. Et lorsqu'il fut à 12 lieues de la ville, Clodas envoya un valet avertir ceux de Gannes qu'ils s'en allaient à Rome, auprès de l'empereur, et leur conseiller de faire la meilleure fin qu'ils pourraient. C'est pourquoi, à peine le roi Artus et Lancelot furent-ils arrivés au camp, Claudin, Chanard, Esclamor, Pantelion et une foule de chevaliers, vêtus le plus richement qu'ils avaient pu en cette saison et montés sur de grands et beaux chevaux, sortirent de la cité et vinrent en apporter les clés au roi, qui y fit son entrée le jour même. Dès le lendemain, il commença d'y recevoir les clés des châteaux et forteresses des 2 royaumes de Gannes et de Benoïc, que lui envoyaient ceux qui les tenaient. Et 4 jours plus tard, il se mit en devoir de visiter ses nouveaux vassaux. À Trèbes, où il fut d'abord, on vit arriver la reine Hélène, mère de Lancelot, suivie de ses nonnes, qui courut à son fils les bras tendus et pleurant de joie. Elle demeura 4 jours auprès de lui, puis elle retourna dans son abbaye, où elle mourut la semaine suivante. Son fils la fit enterrer auprès du roi Ban. Dieu ait son âme au paradis, parmi ses saintes fleurs. Ainsi, Lancelot, Lionel et Bohors recouvrèrent leurs héritages. À Pâques, le roi tint encore à Gannes une grande et merveilleuse cour, telle que les gens du pays n'en avaient jamais vu de semblable. Puis il reprit la mer avec ses gens et les vents étant favorables, il débarqua peu après en Grande-Bretagne. Mais le comte laisse maintenant de parler du roi Artus, de Lancelot du Lac et de leurs compagnons, pour narrer les enfances de Perceval le Gallois. Chapitre 43. Enfance de Perceval le Gallois, la forêt gâtée. Le comte dit qu'il y eut jadis, dans la terre de Galles, un roi qui valait beaucoup, prud'homme à merveille et de très haute lignée, fils de Péléan, le roi pêcheur, et frère cadet du roi Pélès, enfin si riche d'amis, de châteaux, de fertés, de prés, de bois et de rivières, qu'il n'avait presque son égal dans la Grande-Bretagne. Or, ses 11 fils aînés furent tués dans les joutes, et sa femme le supplia de renoncer pour toujours au tournoi. Mais il lui répondit en haussant les épaules « Maudit le chevalier qui demande conseil aux dames quand il s'agit de tournoyer. Allez-vous reposer à l'ombre dans vos chambres peintes et dorées. Pensez de boire et de manger, de teindre de la soie, de faire de la tapisserie, c'est votre métier. Le mien est de frapper de mon épée d'acier. » Et il s'en fut à de nouvelles joutes, où il ne manqua pas de se faire tuer, comme ses 11 fils. De sa mort, sa femme épousée eut tant de chagrin que nul homme, pour dur que fût son cœur, n'eût pu la voir sans pleurer. Ah, quelle douleur! Elle fit dire plus de 100 messes à l'église, et elle se promit que son dernier né, qui avait nom Perceval, n'irait jamais à un tournoi, et même qu'il n'entendrait jamais parler de chevalerie. Elle annonça à ses vassaux qu'elle voulait mener l'enfant en pèlerinage à Saint-Brandan d'Écosse, et leur fit jurer d'obéir à son sénéchal, à qui elle remit sa terre en bailli. Puis elle prit son trésor et tout ce qu'elle put de son avoir. Elle fit charger 10 charrettes de blé, froment, avoine et deniers, et elle s'éloigna avec son fils, emmenant bœufs, vaches, chevaux, moutons, brebis, accompagnée par une douzaine de vilains qui lui étaient dévoués et de grands services. Elle alla tant dans cet équipage qu'elle parvint dans la forêt gâtée, la plus déserte du monde, où elle chemina bien 2 semaines sans voir ni homme ni maison. Un jour, enfin, elle déboucha avec ses gens dans une belle et avenante vallée, arrosée par un cours d'eau assez vif pour faire aller un moulin, et elle résolut de s'arrêter là. Les 12 vilains travaillèrent si bien qu'ils firent en 15 jours une maison close d'une bonne palissade. Puis ils labourèrent la terre, et Perceval fut élevé dans ce vallon, jusqu'à ce qu'il eût 15 ans. À cet âge, il savait très bien monter à cheval et lancer le javelot. Il avait les cheveux noirs comme la mûre au mûrier, mais le cou blanc comme la fleur d'églantine. Les yeux pairs, la bouche riante, les jambes fortes et longues pour bien soir sur un destrier. Large d'épaule, étroit de ceinture, c'était un des plus beaux valets qui se soit jamais vu. Chaque matin, vêtu à la mode de Galles, d'une chemise et de braies de chanvre d'un seul tenant, couvert de sa cotte en cuir de serre, il enfourchait son petit cheval de chasse et, ses 3 javelots à la main, il s'en allait au bois. « Beau-fils, lui dit un jour sa mère, chassez tant qu'il vous plaira les chevreuils et les cerfs, mais il y a une chose que je vous défends. Si vous rencontrez dans la forêt des gens qui chevauchent à grand fracas, paraissant tout couverts de fer, ne restez pas auprès d'eux, car ce sont diables qui vous dévoreraient tôt. Éloignez-vous aussi vite que vous pourrez, signez-vous et dites votre credo. De la sorte, vous ne risquerez rien. » « Dame, ainsi ferai-je, » répondit Perceval. Chapitre 44. Enfance de Perceval le Gallois, les chevaliers. C'était au joli temps que les arbres fleurissent et que les prés verdissent, que les oiseaux chantent doucement en leur latin et que toute chose flambe de joie. Ce matin-là, en entrant dans la forêt, Perceval sentait son cœur tellement réjoui du soleil et du chant des oiselets qu'il ne savait que devenir. Il ôta la bride de son cheval et le laissa paître à sa guise. Puis, pour se divertir, il se mit à lancer ses javelots, tantôt haut, tantôt bas, l'un en arrière, l'autre en avant. Or, durant qu'il s'amusait ainsi, voici venir cinq fers vêtus chevauchant à grand bruit, car leurs armes heurtaient les branches, leurs haubères frémissaient, leurs lances frappaient leurs écus. Le valet, qui entendait ce fracas sans rien voir, songea tout d'abord à ce que sa mère lui avait dit des diables qui courent en ce monde, enclins à faire un bruit furieux et des mouvements impétueux. « Elle m'a enseigné qu'il se faut munir en pareil cas du signe de la croix, » se dit-il. « Je le ferai et dirai mon credo. Mais je lancerai ensuite un javelot au plus fort de ses démons, et je le blesserai si rudement que les autres n'oseront approcher. » Pourtant, quand les cinq chevaliers débuchèrent et lui apparurent, l'écu au col et la lance au poing, leurs haubères blancs, verts ou merveilles, luisant au soleil, tout brillant d'or, d'azur et d'argent, il s'écria, émerveillé, « Certes, ce ne sont pas là des diables, mais des anges, et ma mère ne m'a point menti quand elle m'a dit que les anges sont les plus belles créatures qui soient après Dieu. Le plus reluisant et resplendissant d'entre eux, il faut que ce soit notre Seigneur en personne. Je vais l'adorer et honorer ses serviteurs. » Là-dessus, il se prosterne et commence de réciter tout ce que sa mère lui avait enseigné de prières et d'oraisons, tant que le maître chevalier, le voyant ainsi, dit à ses compagnons de s'arrêter pour ne pas l'effrayer à mort, et s'avança seul auprès de lui. « N'aie pas peur, valet. Je n'ai point peur par le Sauveur, mais n'êtes-vous point Dieu ? Non, par ma foi, je ne suis qu'un chevalier, mais dis-moi, n'as-tu pas vu passer par ici cinq hommes et trois pucelles ?»« Un chevalier ? Je n'ai jamais entendu parler de chevalier. Mais vous êtes plus beau que Dieu, luisant de la sorte. Qu'est-ce que vous tenez à la main ?»« C'est une lance, valet. » « Voulez-vous dire que vous lancez cela comme je fais mes javelots ?»« Non, certes, on en frappe de près ceux contre qui l'on bataille. »« Mes javelots valent donc mieux, car j'en atteins bêtes et oiseaux d'aussi loin qu'on pourrait tirer une flèche. »« Je n'ai que faire de tout cela, réponds à ma question. » Mais le jouvenchot touchait le bas de l'écu. « À quoi vous sert ceci ?» Voilà merveille, beau doux ami, je pensais apprendre quelque chose de toi, et c'est moi qui t'enseigne. Ce que je porte se nomme écu. Quand on veut me blesser, l'écu me protège. Cependant, les quatre chevaliers, voyant leur seigneur parler si longuement, s'étaient approchés au pas. Sire, dirent-ils, les Gallois sont par nature plus sots que des bêtes. C'est muser à la muse et perdre le temps à des folies que d'interroger celui-ci. » Mais Perceval tirait le chevalier par le pan de son haubert. « Qu'est ceci, beau sire ? » reprit-il. « Valet, c'est mon haubert d'acier, qui est aussi pesant que fer. Grâce à lui, si tu me jetais tous tes javelots, il ne pourrait me faire aucun mal. » « En ce cas, Dieu garde les cerfs et les biches d'avoir des haubères. Mais êtes-vous né ainsi fait ?»« Né ni, valet, tu es trop sot. Et qui vous donna donc ces beaux habits ?»« Il n'y a pas 15 jours entiers que je reçus tout ce harnais du roi Artus, quand il me revêtit de l'ordre de chevalerie, qui est le plus noble et le plus triomphant que Dieu ait créé. Mais apprends-moi, si tu le sais, ce que sont devenus les cinq hommes et les trois pucelles que je poursuis. Vont-ils au pas ou s'ils s'enfuient ? Sire, au-delà des grands bois qui environnent cette colline, il y a une vallée où les métayers et les laboureurs de ma mère sèment et hercent. Ils vous diront si ceux que vous suivez ont passé là. » À ces mots, les chevaliers piquèrent des deux et s'enfuirent au galop, laissant Perceval tout rêveur. Chapitre 45. enfance de Perceval, le Gallois, départ. Il retourna lentement au manoir, où sa mère, qui avait le cœur dolent et noir à cause de son retard, le serra contre elle en l'appelant « Beau-fils, beau-fils !» plus de 100 fois. « Dame, lui dit-il, j'ai eu une grande joie aujourd'hui. Ne m'avez-vous pas dit bien souvent que les anges de notre Seigneur Dieu sont si beaux que la nature jamais ne fit de plus avenante créature ? J'en ai rencontré dans la forêt gâtée. Ils m'ont dit qu'on les nomme chevaliers, et que l'ordre de chevalerie est le plus noble que Dieu ait institué en ce monde. « Hélas !» dit la mère en pleurant, « je suis maudite. Voilà donc advenu ce que je craignais le plus. Beau doux fils, ces mauvais anges que vous avez rencontrés, tuent tout ce qu'ils atteignent. Dieu vous garde de leur chevalerie. » Et elle lui conta ce qui était arrivé à ses frères et à son père, comme le comte en a devisé. Mais Perceval lui répondit seulement « Ma mère, je vous prie de me donner à manger, car j'ai grand faim. Je n'entends guère ce que vous m'expliquez, mais j'irai volontiers vers celui qui fait les chevaliers. » Alors la dame comprit bien qu'elle ne pourrait le retenir. Si elle en fut dolente, il est inutile de le dire. Perceval, en effet, pensait nuit et jour aux anges qu'il avait rencontrés. Et cependant, il dépérissait de telle sorte que peu avant la Pentecôte, sa mère lui dit en soupirant « Beau fils, puisque vous le désirez tant, il faut donc vous laisser partir. Allez à la cour du roi Artus et demandez-lui de vous faire chevalier. Il ne le refusera point quand il connaîtra votre lignage. Hélas ! Comment vous aiderez-vous des armes qu'il vous octroiera sans avoir jamais appris à vous en servir ? Au moins, retenez les enseignements que je vais vous donner. Premièrement, quand vous trouverez quelque dame ou pucelle qui ait besoin d'aide et qui vous requiert de lui donner la vôtre, accordez-la lui, car celui qui ne porte honneur aux dames, il perd le sien. Mais, sur toute chose, demeurez chaste et gardez-vous de luxure. Si une pucelle vous donne l'anneau de son doigt ou l'aumônière de sa ceinture, acceptez-les en remerciant. Même si elle ne vous refuse le baiser, vous pouvez le prendre. Mais quant au reste, je vous le défends. Beau fils, fréquentez les prud'hommes et recherchez-les où qu'ils soient. Mais avant tout, pensez à celui qui mourut en croix, et ne manquez pas d'entrer pour y prier dans toutes les églises ou abbayes que vous rencontrerez, car ce sont les maisons de notre Seigneur. » Perceval promit, puis il sella son petit bidet de chasse et saisit ses 3 javelots. Mais sa mère lui en fit laisser 2, afin qu'il n'eût pas trop l'air d'un Gallois, et elle lui dit de porter un fouet dans sa main droite. Ainsi fait, il prit congé d'elle et se mit en selle. Hélas, quand il se fut éloigné d'un jet de pierre, il se retourna et vit qu'elle gisait, pâmée, sur le sol. Pourtant, il fouetta sa monture et s'en fut à grande allure par la haute forêt. Chapitre 46. Enfance de Perceval le Gallois, le baiser et l'anneau. La première nuit, il coucha dans les bois, mais le lendemain, éveillé au chant des oisillons, il reprit sa route et ne tarda point à parvenir dans une clairière où s'élevait une très belle tente, mi-partie de vert et de rouge, et rayée de bandes d'or froid sur lesquelles des aigles d'or brodés luisaient de manière à égayer toute la prairie. « Dieu éternel ! » s'écria le damoisel émerveillé. « M'est avis que voici l'une de vos maisons. Ma mère m'a dit de ne jamais passer devant une église sans y adorer notre Seigneur. Je le prierai de me donner à manger, car j'ai grand faim. » Ce disant, il attache son cheval à un poteau et entre dans le pavillon qui était ouvert. Il ne s'y trouvait qu'une pucelle endormie sur un lit, toute seule, car ses demoiselles, la voyant sommeiller, était allé cueillir des fleurettes nouvelles pour la joncher. Et au bruit que fit le valet, elle s'éveilla en sursaut. Pucelle, lui dit Perceval, je vous salue comme ma mère me l'a enseigné, car elle m'a dit de ne jamais manquer de saluer les pucelles. Valet, fit-elle en riant de sa naïveté, sauve-toi que mon ami ne te voie. Par ma foi, je ne partirai point sans avoir eu un baiser de vous, comme ma mère me l'a appris. Ici, la demoiselle cessa de rire. Mais quoiqu'elle se défendît du mieux qu'elle put, il la serra dans ses bras qui étaient très forts, et l'embrassa plus de 20 fois, dit le comte, malgré qu'elle en eût. Puis, avisant l'anneau qu'elle avait au doigt, orné d'une claire émeraude, « Pucelle, dit-il encore, ma mère m'a enseigné que je devais recevoir l'anneau, mais que je ne devais rien faire de plus. Or ça, donnez-le-moi. » Et comme elle résistait, il lui étendit la main de force et lui ôta l'annelé qu'il passa à son doigt. « Pucelle, grand merci, je m'en irai bien payer, car votre baiser est beaucoup meilleur que celui des chambrières de ma mère. Vous n'avez pas la bouche amère. » Cependant, la demoiselle s'était mise à pleurer. « Ah, valet, disait-elle, n'emporte pas mon anneau, j'en serais trop blâmée. » Mais Perceval ne mettait rien en son cœur de tout cela. Il mourait de faim et venait d'aviser un bocal plein d'un vin qui n'était pas lait, puis, sous une serviette blanche, 3 pâtés froids de chevreuil frais. Il en prit un en main, dont il mangea de bon appétit, non sans se verser de bonnes rasades dans une coupe d'argent. « Pucelle, disait-il la bouche pleine, « ces pâtés, je ne les userai pas tous 3 aujourd'hui. Venez donc y goûter, ils sont très bons. Il y en aura un pour chacun de nous, et il en demeurera un tout entier pour ceux qui surviendront. » Enfin, quand il eut assez mangé et bu, il recouvrit soigneusement de la serviette ce qui restait et s'en fut après avoir recommandé la demoiselle à Dieu. Chapitre 47. Enfance de Perceval le Gallois, l'orgueilleux de la lande. Or, lorsque revint le chevalier du pavillon, qui avait nom l'orgueilleux de la lande, il aperçut les traces du cheval de Perceval. Puis il trouva sa mie pleurant. « Demoiselle, demanda-t-il, un chevalier est venu ici, quel est-il? Dites-le-moi, sans rien cacher. » « Un chevalier? Non, sire, sur ma foi, mais un valet gallois, lourd, malgracieux et sot, qui a bu de votre vin et mangé de vos pâtés ce qui lui a plu. Et c'est pour cela, belle, que vous menez si grand deuil. « Eût-il tout bu et tout mangé, il n'y aurait point là de quoi pleurer. »« Il a fait pis, il m'a pris mon anneau et l'a emporté. J'aimerais tout autant qu'il m'eût tué. »« Ah, je crains bien qu'il n'ait fait pis encore. Dites la vérité. »« Sire, il est vrai qu'il me prit un baiser. »« Un baiser ? » ?»« Oui, je dis bien, mais ce fut de force et contre mon gré. » Là-dessus, l'orgueilleux se mit en colère. « Croyez-vous que l'on ne vous connaît pas? Je ne suis pas si borgne que je n'aperçoive votre fausseté. Sachez que votre cheval ne mangera pas d'avoine et qu'il n'aura pas de fer nouveau tant que je ne me serai pas vengé. S'il meurt, vous suivrez à pied. Et jamais ne seront renouvelés les habits dont vous êtes vêtus avant que j'aie coupé la tête de ce larron. » Ayant dit, tandis que la demoiselle pleurait plus fort, il s'assit et mangea ce que Perceval avait laissé. Puis il partit sur les traces du valet, avec son ami. Mais le comte cesse maintenant de parler d'eux et de Perceval, pour deviser du roi Artus. Chapitre 48. L'infidélité involontaire, Lancelot chassé. Quand il débarqua en Grande-Bretagne, après avoir vaincu Claudas de la Déserte, le roi manda par toutes ses terres qu'il voulait tenir à la Pentecôte, la semaine suivante, la cour la plus grande et la plus plénière qu'on eût jamais vue. Et la nouvelle courut tant par l'Écosse, l'Irlande et les îles de la mer qu'elle vint au château aventureux, où la fille du roi Pélès demanda à son père la permission de se rendre à cette cour, car elle aimait Lancelot, dont elle avait eu son fils, Galahad, autant que femme peut aimer homme. » Il la lui accorda volontiers, et elle se mit en route, en compagnie de sa gouvernante Brisane et de 40 chevaliers. Le roi et la reine Guenièvre lui firent aussi grand accueil qu'ils purent, tant à cause de sa beauté que de la hautesse et de la noblesse de son lignage. Et tous, pauvres et riches, mais plus que les autres, les trois cousins, Hector, Lionel et Bor, se mirent en peine de la servir et honorer. Elle, cependant, n'avait Dieu que pour Lancelot. Et lui, il songeait qu'il eût commis naguère un trop grand crime s'il eût oxy une femme si belle. Néanmoins, il n'osait pas seulement la regarder, tant il se repentait de ce qu'il avait fait avec elle. Or, le mardi soir après la Pentecôte, la reine lui manda secrètement qu'elle l'enverrait chercher, la nuit, lorsque tout le monde serait endormi. Mais Brisane, la plus avisée vieille qui ait jamais été, faisait bonne garde autour de Lancelot, de manière qu'elle surprit ce message. Et sitôt que chacun fut couché, elle se hâta de lui envoyer une pucelle qui lui dit « Sire, madame vous mande que vous veniez sur le champ. » « J'y vais, » répondit Lancelot, qui pensait que ce fut la reine. Ce disant, il sauta hors de ses draps et suivit la pucelle. Elle le conduisit au lit de la fille du roi, auprès de laquelle il se coucha, sans mot dire, par prudence, et là, tous deux firent l'un de l'autre leur joie et leur plaisir, après quoi ils s'endormirent, heureux, l'un d'avoir tenu sa dame, croyait-il, l'autre d'avoir celui qu'elle aimait le plus au monde. La reine, cependant, avait envoyé quérir Lancelot par sa cousine, l'ancienne prisonnière du roi Claudas, à qui elle se fiait autant qu'à elle-même. Mais la pucelle revint dire qu'il n'était pas dans son lit. Après avoir attendu quelque temps, la reine envoya la demoiselle à nouveau. Mais celle-ci eut beau tâter le lit et chercher, elle ne trouva pas Lancelot davantage. Et la reine alors fut si inquiète et dolente qu'à la minuit, n'y pouvant plus tenir, elle se rendit elle-même chez son amie. Elle n'y vit personne, mais elle entendit quelqu'un se plaindre dans la chambre voisine, comme il arrive qu'on fasse en dormant. Elle écouta, reconnut Lancelot, et sans réfléchir, elle ouvrit la porte, vint au lit, le saisit par le poing. « Ah, larron, traître, déloyal, qui devant moi faites votre ribaudie, fuyez d'ici et ne reparaissez jamais à mes yeux. » Ce qu'entendant, Lancelot, éperdu de douleur, quitte la chambre sans oser souffler mot, nu-pieds, en chemise et en braie comme il était, gagne la cour, puis le jardin, sort de la ville par une poterne et s'enfuit dans la campagne. « Ah, dame !» disait cependant la fille du roi Pélès, « vous avez mal agi en chassant si vilainement le plus prud'homme du monde. Vous vous en repentirez. » « Demoiselle, répondit la reine, c'est à vous que je dois cela. Sachez que, si j'en trouve l'occasion, je vous en récompenserai comme il faut. » Mais, quand la fille du roi Pélès lui eut expliqué toute l'affaire, elle commença de pleurer et de faire paraître le plus grand chagrin du monde. Chapitre 49 Quête de Lancelot. Au matin, la fille du roi, bien dolente, fit préparer ses gens, prit congé du roi Artus, qui le lui donna à grand regret, et après avoir conté à Lionel tout ce qui s'était passé, elle repartit pour son pays. « Dame, disait cependant Lionel à la reine, pourquoi nous avez-vous trahis en chassant si vilainement monseigneur Lancelot? Il adviendra encore grand mal de cela, et vous verrez commencer une quête où maints prud'hommes mourront qui ne l'auront pas mérité. Certes, votre lignage est plus rabaissé par vous en un jour qu'il ne sera jamais élevé durant toute votre vie. » Ah, Lionel, je sais bien que je me suis méprise, et je vous en crie grâce, à vous, comme je ferais à Lancelot s'il était ici. J'étais si hors de sens quand je le trouvais avec la demoiselle que je ne savais ce que je faisais. Je m'en repens durement. Le repentir vaut peu quand le mal est sans remède. » Là-dessus, Lionel fut dire à son frère Bohor et à son cousin Hector comment Lancelot avait disparu. Et tous trois battirent la forêt tout le jour. Mais ils ne trouvèrent rien. Alors ils se mirent en quête, chacun de son côté. Bientôt l'absence de Lancelot et la leur furent remarquées à la cour, de façon que messire Gauvin, Sagremor, messire Yvain, Aglova, Gahurier, Guéréès et plus de 30 autres compagnons partirent à leur recherche. Et vainement ils cherchèrent Lancelot durant 3 ans et plus. Mais le comte ne parle de nul d'entre eux et retourne maintenant à Perceval le Gallois. Chapitre 50. Enfance de Perceval le Gallois, la demoiselle en guenille. Lorsqu'il eut quitté la demoiselle dont il avait ravi l'anneau, il chevaucha aussi vite que son bidet put le porter, jusqu'à ce qu'il rencontrât un charbonnier menant son âne. « Orsa, vilain, lui dit-il, enseigne-moi par où l'on va au roi qui fait des chevaliers. » Le charbonnier, qui avait entendu parler de la grande cour que tenait le roi Artus, le mit dans la bonne voie. Et, à force de demander son chemin de la sorte, Perceval parvint à Carduel, au palais, peu après le départ des 30 compagnons. Le roi était à son haut manger, tout pensif, lorsque le valet entra dans la salle, vêtu de ses habits de chanvre et de sa cotte de cuir de serre, sans bottes ni éperons, car il ne savait même pas ce que c'était, son fouet et son javelot à la main. Il fut droit à un sergent qui tranchait la viande. « Valet qui tient le couteau, montre-moi lequel de ceux-là est le roi Artus. » « Ami, le voici. » Aussitôt Perceval s'approche et salue lourdement, à sa façon. Mais le roi songeait si profondément à Lancelot et à ceux qui le cherchaient, dont il n'avait point de nouvelles, qu'il ne le vit même pas. « Par ma foi !» s'écria le valet en tournant de l'eau. « Ce roi n'a jamais su faire les chevaliers. On n'en peut tirer ni un geste ni un mot. » En l'entendant, Artus avait relevé la tête et, le voyant si belle et si jante, il lui dit « Beau frère, je ne vous avais point aperçu. Soyez le bienvenu et dites-moi ce que vous souhaitez. « Faites-moi chevalier, sire roi. Donnez-moi des armes et que je m'en aille. » Là-dessus, les barons se mirent à rire. « Ami, dit Queux en plaisantant, prenez celle du premier chevalier que vous rencontrerez. Le roi vous les donne. »« Queux, tenez votre langue, s'écria le roi. Ce valet est simple, mais il est sans doute bon gentilhomme. C'est vilainie que de railler autrui, et ce n'est pas d'un prud'homme que de donner ce qu'on ne possède point. » Mais Perceval était sorti de la salle, et remonté sur son bidet, il quittait la ville, tout joyeux. Or, comme il venait de passer la porte, il aperçut une pucelle, chevauchant un palefroid maigre, rendu, les oreilles pendantes, qui n'avait plus que le cuir sur les os. À le voir, on l'eût bien pris pour un cheval prêté. Il n'avait d'autre frein qu'un licol, et en guise de selle, un peu de paille cousue dans une vieille toile. Et là-dessus se tenait une pucelle qui n'était pas en meilleur point que sa monture. Pâle, chétive, décharnée comme si elle sortait de maladie, couverte d'un bliot en lambeaux, si déchiquetée que ses seins sortaient par les déchirures, la peau toute hâlée et crevassée par le chaud et le froid, les cheveux épars, la tête couverte d'un mauvais linge et le visage tracé par les larmes qui sans cesse lui coulaient des yeux. En voyant Perceval, elle serra ses loques autour d'elle, mais les fentes ailleurs s'en élargissaient, de manière qu'elle ne cachait rien qu'en laissant paraître autre chose. « Pucelle, dit Perceval, vous voilà en bien mauvais point. Ne puis-je rien pour vous? Ma mère m'a dit que je devais en tout lieu secourir les dames. « Ah, valet, qui ravit mon anneau, répondit-elle, fuis-t'en d'ici, je te dois assez d'infortune. » À ces mots, un chevalier, vêtue d'armes vermeilles comme braise, qui chevauchait à quelque distance de la demoiselle, se retourna. « Malheur à toi » cria-t-il à Perceval, « si tu es ce valet gallois qui lui donna un baiser. Elle dit que ce fut malgré elle et que tu n'en fis pas davantage. Mais une femme qui abandonne sa bouche cède aisément le surplus. On sait bien qu'elles veulent triompher toujours, sauf en cette mêlée, où, quoiqu'elles égratignent, ruent et mordent, il leur tarde d'être vaincues. Si tu étais chevalier, tu serais promptement châtié. » Ce disant, l'orgueilleux de la lande lève sa lance à deux mains et en assène à Perceval un tel coup par le travers des épaules qu'il le couche sur son cheval. Furieux, le valet se redresse, sans mot dire, saisit son javelot et, visant l'œil, il le lance. Et l'arme pénètre sous le haume, fait jaillir la cervelle et le sang, en sorte que le chevalier tombe mort. Ce que voyant, Perceval saute joyeusement de son roussin gallois et, sans s'occuper de la pucelle, il s'empare de la lance du mort, lui ôte l'écu. Toutefois, il ne sait comment lui délasser son haume, encore moins lui enlever son haubert. Pensant réussir, il prend l'épée par le fourreau, tire tant qu'il peut. Mais le comte devise maintenant de la demoiselle en guenille.